Après avoir remporté le prix des libraires en 2019 avec « Ouvrir son cœur », Alexis Morin propose un tout autre genre de livre. C'est un roman qui s'intitule « La maison Durand Lynch ». Alexis Morin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Alexis. Comment vous qualifiez votre nouveau roman?
On appelle ça un roman gothique, en fait. C'est le terme qu'on va utiliser qui est le plus général, mais tu sais, ça emprunte aussi à d'autres genres comme la weird fiction, comme le fantastique, puis un peu au coming of age aussi.
La weird fiction, what's that?
C'est un courant littéraire, qui est pas mal issu du monde anglophone, qui emprunte à toutes sortes de genres. Notamment donc l'horreur, le fantastique, qui les mélange aussi avec la littérature dite un peu plus blanche, qui déconstruit les structures puis qui dans le fond vise à créer souvent un sentiment d'angoisse existentielle, oui. Si vous voulez, tu sais, oui. Ça cultive le mystère, puis ça donne pas, c'est un fantastique qui donne pas de réponse, qui ne veut pas s'expliquer. Et qui, donc, c'est ça, nous fait sentir notre petite taille dans l'univers, si vous voulez.
Oh oui, on est en plein mystère, puis c'est vrai que, moi, en tout cas, j'ai eu peur à certains endroits dans votre livre,
ah oui?
Dans certains passages. Est-ce que vous pouvez nous tracer les grandes lignes de l'histoire de la maison Durand Lynch?
Oui, bien sûr. Dans le fond, ça commence un soir de 1994, au solstice d'été, quand un petit garçon qui s'appelle Vincent McCabe, entend raconter par sa tante autour d'un feu de camp l'histoire de la disparition de sa grande sœur à elle, donc en 1959. Ça lui met la puce à l'oreille et ça fait en sorte qu'il va se demander si son propre frère qui est mort en bas âge pourrait pas encore être dans la forêt dans laquelle ils vivent, parce que évidemment l'histoire racontée par sa tante, c'est une histoire de fantôme.
Donc, Marie-Lou qui parle de sa sœur Anne-Claire.
C'est ça. C'est une histoire de fantôme, donc qui en cache une deuxième. À la suite là, de ce récit-là, Vincent va donc décider de partir à la recherche peut-être du fantôme, mais peut-être pas dans la forêt, et il va se perdre pendant 3 jours.
Oui, c'est là que j'ai eu peur, surtout.
Ah oui, ben écoutez, moi, je me suis un peu fait peur aussi en le faisant.
Ah oui?
Ça vient me souvenir assez profond aussi de se perdre quand on est enfant dans la forêt. Je me suis jamais perdue pendant 3 jours, mais je me suis déjà perdue, tu sais, pendant 3 heures.
Puis, 3 heures, c'est quand même long, hein?
Quand même. Ces 3 journées-là de solitude intense vont vraiment changer sa vie et lui apprendre toutes sortes de choses dans l'univers où il vivait, qu'il croyait vraiment pas possible. Puis bon, ça va marquer la suite de son existence, puis sa quête aussi là, de la vérité au sujet de sa famille.
Oui. Lui qui a perdu vraiment... son petit frère, hein, Samuel. On dira
exact.
Pas nécessairement dans quelles circonstances,
non.
Là, mais.
Mais c'est ça, mais c'est une tragédie qui va avoir été marquante pour toute sa famille au complet et dont il n'entendra jamais, disons, le fin mot. Personne ne veut vraiment lui expliquer ce qui s'est passé pour toutes sortes de raisons. Puis c'est aussi un peu là-dessus le livre sur les secrets de famille, sur les histoires qu'on se raconte, puis comment elles nous façonnent, disons, qu'on les connaisse bien ou pas.
D'où est venue l'envie d'écrire ce genre d'histoire?
Quand même une longue pratique de la lecture de la littérature de genre. Je suis, tu sais, j'ai fait des études en littérature, mais mon premier grand amour, c'est vraiment la fiction. Puis, tu sais, la fiction, le fantastique, la SF, l'horreur, vraiment, là, mon écrivain préféré pendant tout mon secondaire, c'était Stephen King. Donc, tu sais, on parle de récits d'horreur. Teinté de surnaturel, ou est-ce qu'il y a un grand souci des personnages, ou est-ce que les vies là, des personnages sont vraiment racontées de façon étroite, ou est-ce qu'on est avec eux, ou on apprend à les connaître en profondeur. Ça a toujours été ça qui m'a importé le plus. Puis, évidemment, il y a aussi le lieu, la forêt elle-même, Durand Lynch, la petite ville de Wickford Mills, qui a été inventé à partir de mes souvenirs de ma propre ville natale qui est Windsor dans les Cantons de l'Est.
Et la maison Durand Lynch est présentée comme le premier volume d'un cycle. Est-ce que vous aviez dès le départ une vision de cet univers ou c'est un monde qui se révèle au fur et à mesure de l'écriture?
Les deux, je dirais. Il y a vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup d'histoires en réserve. Je sais comment se termine mon cycle, mais à chaque fois que j'écris, il y a des choses aussi qui s'inventent, qui apparaissent. Puis c'est évidemment, c'est quand ça apparaît, je peux pas faire autrement que de m'en saisir, puis d'écrire là-dessus aussi. J'ai toujours voulu écrire une série. Évidemment, on commence pas là, tu sais, dès les premières pages d'une histoire à se dire ah oui, ça va faire 2000 pages, mais ça a toujours fait partie de mon ADN de lectrice puis d'écrivaine. J'aime ça les histoires longues, puis j'aime ça rester avec les personnages puis dans les univers le plus longtemps possible.
Et est-ce que ça a été un défi de travailler le passage d'une temporalité à l'autre sans perdre le fil, le souffle narratif, là, parce que l'histoire s'ouvre, on est en décembre 99, ensuite en juin 94, en juin 83. Ça commence en décembre 99 et ça se termine en décembre 99.
Exact, c'est ça. Tu sais, dans le fond, ça commence chronologiquement en juin 1994, mais c'est vrai que le livre il est fait comme une sorte de.
Ben, vous dites que ça commence en juin 94, mais la faute c'est décembre 99.
Oui, c'est ça. Chronologiquement.
Oui, je comprends. Ok.
C'est ça. Mais oui, ce travail-là sur la structure temporelle, ça a été un défi, certainement. Puis, l'alternance entre les focalisations aussi représente des défis parce que on veut pas décrire plusieurs fois des choses que les lectrices et les lecteurs ont déjà vues décrites en amont, mais il faut quand même respecter la perspective de chacun des personnages. Mais en fait, ça a surtout été un grand plaisir technique puis une manière vraiment productive de créer des personnages vraiment profonds puis de marquer la différence entre l'enfant de 11 ans et par la suite l'adolescent de 16 ans qui devient comment faire pour inventer, comment faire pour représenter cette personne-là puis vraiment faire sentir que c'est la même personne mais que 5 années ont passé. Là, il y a toutes sortes de procédés que j'ai dû inventer puis de détails que j'ai ajouté un peu partout pour que cette continuité-là se fasse sentir, puis c'est vraiment le fun.
Et c'est vraiment le fun aussi que vous ayez pensé à mettre les personnages, c'est la famille McCabe, c'est comme ça que vous prononcez,
ouais.
McCabe, OK, parce qu'elle est nombreuse, cette famille, et on a tous les noms avec les années de leur naissance et de leur mort, si les personnages sont morts. Alors, moi, j'y retournais à l'occasion, là, parce que c'est quand même très, très touffu, mais les protagonistes, ce sont des adolescents. Pourquoi avoir choisi des adolescents?
L'enfance et l'adolescence, c'est vraiment des périodes de la vie qui me fascinent parce que c'est vraiment la période de toutes les premières fois. Puis c'est un peu ça aussi qui est représenté dans le livre. Donc, je ne sais pas moi, le premier party, la première blonde, les premières fois qu'on va pouvoir s'éloigner de la maison puis aller se promener seule.
C'est pas une période ennuyante.
Non, c'est ça. T'sais. Puis c'est aussi que, comme chacune de ces expériences-là va venir façonner l'identité. Tout est plus intense, tout est plus gros, tout est absolu d'une certaine manière quand t'es très petit. Puis il y a, sans oublier aussi la première fois en fait qu'un enfant ou un adolescent s'aperçoit que ses parents, que sa famille sont pas ce qu'ils croient être.
Ah oui.
Que les adultes sont pas parfaits, sont pas infaillibles. Au contraire. Et tu sais, cette réalisation-là, quand on la fait trop tôt, ça peut faire sentir assez seul au monde.
Dans une entrevue que vous avez accordée à Chantal Guy de La Presse, qui parle de vous comme une écrivaine de l'atmosphère, je trouve ça très beau, vous avez dit « Être romancière, c'est la chose que je voulais le plus depuis vraiment longtemps. Les poèmes et le récit de soi, c'était comme des détours, comme des explorations. J'ai vraiment fait exprès cette fois pour que personne ne puisse me demander si c'était basé sur ma vie. » Est-ce que c'est une question qui vous dérange pour vrai?
C'est-à-dire... Pas dans l'absolu, évidemment. Je vous dis spontanément que Wickford est basé sur Windsor, donc il y a quand même des aspects là, tu sais, que ça me dérange pas d'explorer, ça me dérange pas d'en parler, mais si vous saviez en fait la différence entre la réception d'un récit de soi et la réception d'un livre de fiction, c'est
deux
tellement
mondes.
Plus léger, c'est tellement plus libre, c'est tellement plus ludique, parce que c'est vrai que quand on travaille, quand on fait du récitoire, les questions vont porter sur la vie personnelle, et que, en fait, la personne qui fait l'entrevue soit de mauvaise volonté ou pas, c'est que pour nous aussi, c'est le récitoire, c'est vraiment un produit de l'expérience, c'est souvent un produit de la souffrance, on en parle, et donc c'est toujours plus difficile. Alors que là, je peux explorer toutes sortes de dimensions de l'expérience humaine, et ça vient pas nécessairement me toucher personnellement. Mmh. Et quand j'en parle, je peux en parler avec un certain détachement, ce qui n'empêche pas que j'en parle avec autant de sérieux que dans un récit de soi, puis probablement peut-être autant de justesse, je sais pas. Mais c'est pas du tout la même chose. Puis je suis vraiment contente d'être de l'autre côté là, pour celui-ci là, en ce moment.
Vous parlez de récit de soi. Est-ce que c'est l'équivalent de l'autofiction?
Ben, il y a toutes sortes de oui, mais à peu près là, c'est il y a des petites nuances techniques là. Dans l'autofiction, on va se permettre un peu plus d'écart par rapport à ce qui est vrai, peut-être, alors que en tout cas dans le récit soi ou le roman autobiographique tel que moi je l'ai pratiqué, le pacte de vérité était très contraignant. Je voulais vraiment, puis c'est Ouvrir son cœur à l'époque, c'était un livre qui s'interrogeait aussi vraiment beaucoup là-dessus, sur la possibilité de dire la vérité, sur la possibilité de reconstituer ce qui a été vécu, sur la même juste, est-ce que c'est possible de restituer la vérité d'une expérience de vie ou pas? Pour ce que j'en comprends, l'autofiction va pouvoir toucher, tu sais, des fois à des problématiques comme ça, mais il y a des écrivains d'autofiction qui vont aussi complètement se permettre de sortir de ça et d'inventer des intrigues, d'inventer des personnages, ainsi de suite.
Le récit de soi, est-ce que ça veut dire que vous avez mis une croix sur ce genre?
Pas nécessairement, mais en ce moment, disons que je sais que je vais en avoir pour une couple d'années à être occupée avec le cycle de Wakefield Mills.
Alexis Morin, vous êtes écrivaine et aussi directrice éditoriale au Quartanier. Comment ces deux pratiques s'influencent ou se nourrissent ou parfois se nuisent peut-être?
Ah, je dirais pas que ça se nuit. En tout cas, personnellement, moi, mon but dans la vie, c'était de faire des livres, et plus je passe de temps en fait auprès des livres, plus je suis heureuse. Donc, il y a pas vraiment de nuisance, là, mettons, à part vraiment là, au niveau de l'horaire, je dirais, de la gestion du temps. Sinon, tout le temps passé à lire les livres des autres, à les interroger, à accompagner des autrices dans la publication, ça m'apprend des choses à tous les jours. Puis j'allais dire, oui, que moi aussi, j'ai un éditeur. J'ai absolument besoin, c'est ça. Ça n'empêche pas, comme autrice, même si je fais ça dans la vie, ça m'empêche pas d'avoir besoin de ce même accompagnement-là au jour le jour, parce que ce qui est beau avec notre métier, c'est qu'on est en mesure de pointer ce que les autrices et les auteurs voient pas nécessairement eux-mêmes dans leur manuscrit, de poser des questions qui leur aurait pas traversé l'esprit, puis mon éditeur fait ça pour moi aussi.
Un troisième œil, un regard extérieur important.
Oui, c'est ça. Peut-être que je suis capable d'amener mes textes, les avancer un petit peu plus que d'autres, mais encore là, c'est pas du tout une règle générale. Il y a des gens, il y a des auteurs et des autrices qui travaillent chacun de leur côté, qui soumettent des manuscrits vraiment impeccables. Il n'y a pas de règle toute faite. Là.
Et comme dernière question, même s'il me reste plus de temps, Alexis, qui vous a donné le goût des mots?
Oh là là, ça c'est une... Je viens d'une famille, les Morins, où est-ce que les gens, tout le monde était là, il y avait des discussions vraiment intenses à table depuis que je suis toute petite. J'ai appris avec ma famille à discuter, à argumenter, à raconter des histoires dès mon plus jeune âge. Puis il y a aussi évidemment là, ma mère, qui était une lectrice vraiment vorace, que j'ai dû lire pendant toute mon enfance, qui allait à la bibliothèque, qui ramenait des piles de livres énormes. Donc, ça vient là, du plus loin.
Modèle inspirant, donc. Ouais. Ça commence dans la
vraiment.
Famille pour vous. Alexis
Absolument.
Morin, bien, bravo pour ce livre. Est-ce que vous planchez déjà sur la suite?
Absolument. Je travaille à tous les jours là-dessus.
Bien, bon travail. La Maison Durand Lynch, qui est très bien reçue, en tout cas par la critique, et j'imagine que les lecteurs et lectrices sont allés à votre rencontre au dernier Salon du livre?
Ah oui, il y avait beaucoup de monde. C'était très intense. Je suis vannée, mais vraiment ravie.
Bon, alors reposez-vous bien, puis continuez d'écrire aussi.
Et, merci beaucoup.
Comme je le disais, j'ai eu peur, mais c'est une peur qui fait du bien. C'est très bien écrit. Merci à vous. Et je rappelle que La Maison du Rang Lynch est publiée au Cartanier. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.